VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, tout un plaisir de vous retrouver en ce mercredi 16 septembre 2015 pour une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité. Jacques Aristide et Anne Albertson pour vous tenir compagnie. Le fil conducteur ce matin.
En RD Congo, violence pendant une manifestation anti-Kabila à Kinshasa. Le gouvernement fait état d'au moins 3 blessés.
Au Mali, les miliciens pro-gouvernementaux de la plateforme se retirent à Danéfis.
L'amusement se dit cependant profondément préoccupé par de nouveaux mouvements de la plateforme, observés cette fois-ci plus au nord.
À l'international, le secrétaire d'État américain s'inquiète du soutien russe au régime syrien.
Dans la partie magazine, plein feu sur les craintes de fraudes électorales à un mois des élections présidentielles et législatives au Burkina Faso.
Même le fichier central de la NASA, de la CIA ou du KGB peut être violé. Un grand avion de ligne peut être détourné. Et nous nous trouvons hasardeux de croire qu'un dispositif puisse être inviolable.
Ne manquez pas non plus la Minute Éco et le billet sportif.
En République démocratique du Congo, heurts violents en marge d'une manifestation de l'opposition hier après-midi à Kinshasa. Le bilan provisoire est de 3 blessés emmenés à l'hôpital, a déclaré hier soir Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. L'AFP rapporte que la situation a dégénéré quand le rassemblement a été attaqué à coups de pierres et de bâtons par une dizaine de jeunes gens. L'un d'entre eux a été intercepté par la foule et a été frappé violemment. Un militant de l'opposition a invoqué la légitime défense. Après plusieurs minutes sans rien faire, des policiers ont fini par intervenir pour récupérer l'homme grièvement blessé, toujours selon l'AFP. Un témoin a vu la police arrêter 2 personnes. Monsieur Mende a condamné toute forme de violence, d'où qu'elle vienne, dit-il, tout en accusant les opposants d'avoir tenu des propos injurieux envers le président, ce qui a provoqué, selon lui, la colère de ses partisans. Les rassemblements à Goma et à Bukavu se sont, eux, déroulés sans incident notable. Nous y reviendrons dans notre segment magazine tout à l'heure.
RDC toujours, l'ONU réclame la libération immédiate de 2 jeunes militants de la société civile, 6 mois après leur arrestation. Claire Morin-Gibourg.
C'est une incarcération abusive, selon l'ONU, qui dénonce l'absence de preuves contre Fred Boma et Yves Mwakwambala. Les 2 jeunes militants sont poursuivis par la justice congolaise pour complot contre le président Joseph Kabila. Tous 2 avaient été arrêtés à Kinshasa le 15 mars dernier lors d'une rencontre sur la bonne gouvernance en Afrique organisée par Filimbi, collectif de mouvements d'éducation à la citoyenneté. Un mouvement non partisan et non violent. Fred Boma est l'un des responsables du mouvement citoyen Lucha, la lutte pour le changement, basé à Goma et adhérent à Filimbi. Yves Mwakwambala est lui le webmestre et graphiste de Filimbi. Les 2 hommes avaient été détenus au secret pendant plus de 40 jours avant d'être déférés à la justice au début du mois de juin. Leur procès se tient dans un contexte politique très tendu en RDC où de nombreux opposants ou militants de la société civile ont été arrêtés depuis le début de l'année après une répression meurtrière de manifestations hostiles au pouvoir. Le président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, est soupçonné par l'opposition de manœuvrer pour rester à la tête de l'État alors que la Constitution lui interdit de se représenter.
La situation au Burundi continue d'inquiéter la communauté internationale. Un expert de l'ONU prévient que si rien n'est fait, le pays sera le théâtre de nouvelles atrocités. Éric Manirakiza.
Pablo Dogrif, expert pour les droits de l'homme, a estimé que le Burundi a tourné le dos aux règles du droit et de la loi. Hier, devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, il a déclaré que les organisations régionales et internationales ne peuvent se permettre d'attendre que reprennent des atrocités de masse avec toutes leurs conséquences sur la région des Grands Lacs. Le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza a plongé le pays dans une grave crise. Les manifestations dans certains quartiers de Bujumbura sont étouffées dans le sang. Il y a des attaques nocturnes contre la police et des assassinats ciblés contre les opposants qui font craindre des violences à plus grande échelle. Le pays a déjà vécu une longue guerre civile entre 1993 et 2006 qui avait fait plus de 300 000 morts.
Au Mali, les miliciens pro-gouvernementaux de la plateforme se sont retirés d'Anéfis, localité du nord du pays qui a été le théâtre de violents affrontements avec les rebelles Touareg. Les combats avaient fait 20 morts le mois dernier. La mission locale des Nations Unies se félicite de ce développement, mais demeure inquiète du mouvement des éléments de la plateforme vers le nord. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
La mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, se félicite du retrait effectué hier par des éléments de la plateforme d'Anéfis et de ses environs, des lieux qu'ils occupaient depuis des semaines après avoir chassé la CMA de cette région du nord du Mali, très convoitée par les groupes armés. La MINUSMA se dit cependant profondément préoccupée par le nouveau mouvement de la plateforme, observé cette fois-ci plus au nord en direction d'Aguelhok, ainsi qu'au nord-ouest de Goundam dans la région de Tombouctou. La MINUSMA, dans le même condamne toute violation de l'accord de cessez-le-feu et demande à tous les signataires de l'accord de paix au Mali de se retirer immédiatement des positions qu'ils occupent ou qu'ils tentent d'occuper. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, chef de la MINUSMA, Mongi Amdi, affirme que la MINUSMA demeure prête à poursuivre la mise en œuvre de son mandat en apportant tout le soutien nécessaire à la consolidation du processus de paix au Mali. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Au Niger, le ministre de l'Intérieur a indiqué à l'AFP que l'opposant Ama Amadou sera arrêté s'il rentre au pays. Le candidat à la présidentielle de 2016, exilé depuis un an en France, a été accusé de trafic de bébés et a fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Le fait que M. Amadou ait été investi candidat par son parti dimanche ne lui confère aucune immunité, a précisé le ministre Assoumi Massaoudou.
Le président zimbabwéen Robert Mugabe a prononcé par erreur au Parlement le même discours que celui qu'il avait le mois dernier devant des députés. Anastasie Tudiesh.
D'après Georges Charamba, porte-parole du président zimbabwéen, il y a eu une confusion dans les discours et le président a prononcé le mauvais à l'ouverture de la session parlementaire. Selon lui, l'erreur se situe au niveau du secrétariat et des mesures disciplinaires sont envisagées. Robert Mugabe, 91 ans, a relu pendant 25 minutes le même texte qu'il avait déjà prononcé le mois dernier pendant son intervention sur l'état de la nation. Visiblement, il ne s'est aperçu de rien et les députés de l'opposition qui l'avaient chahuté le 25 août sont restés silencieux cette fois-ci. 7 députés de l'opposition avaient reçu des menaces par SMS les mettant en garde contre toute perturbation du discours présidentiel. Pour Aubert Goutou, porte-parole du MDC, c'est la toute dernière preuve que M. Mugabe n'a plus les facultés mentales requises pour diriger le pays et devrait être à la retraite depuis fort longtemps.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré hier à son homologue russe Sergueï Lavrov que le soutien de Moscou au président syrien Bachar al-Assad risquait d'exacerber la guerre en Syrie. M. Kerry a appelé au téléphone M. Lavrov pour réitérer la position de Washington sur ce point quelques heures après des déclarations du président russe Vladimir Poutine confirmant et justifiant la poursuite du soutien politique et militaire de Moscou au président syrien.
15 personnes, dont 6 enfants, sont mortes dans des crues subites dans l'Utah, dans l'ouest des États-Unis. Ces inondations font suite à des pluies torrentielles tombées lundi après-midi au-dessus de canyons situés au nord de la petite ville de Hilldale. Elles ont également provoqué des coupures d'eau et de courant.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé hier soir un durcissement des peines contre les lanceurs de pierres. À l'issue d'un troisième jour de heurts sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, Palestiniens et policiers israéliens se sont à nouveau affrontés, malgré l'inquiétude et les appels au calme de la communauté internationale.
La crise des réfugiés en Europe, la Hongrie a annoncé avoir engagé une procédure pénale contre 60 migrants arrêtés hier. Ils sont accusés d'avoir endommagé la clôture barblée érigée à la frontière avec la Serbie, un délit passible de 5 ans de prison en vertu d'une législation entrée en vigueur lundi à minuit.
L'enseignante et réfugiée afghane Akela Asifi est la lauréate 2015 du prix Nansen pour les réfugiés, une distinction décernée par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Nathalie Barge.
Malgré les traditions culturelles contre l'éducation des filles et des femmes, Akila Asifi a persuadé les parents d'envoyer leur fille à l'école sous sa tente de fortune dans le village de réfugiés de Kot Chandana dans la province du Punjab au Pakistan. Depuis lors, l'enseignante a guidé plus d'un millier de jeunes filles réfugiées à travers leur éducation primaire. Quand j'ai commencé ma mission d'éduquer les filles afghanes, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour je remporterais ce prix, a-t-elle dit à La Voix de l'Amérique, tout en exprimant sa joie. Selon le HCR, il y a environ 1 500 000 réfugiés afghans au Pakistan. Près de la moitié sont des enfants d'âge scolaire, mais environ 80% de ces enfants ne vont pas à l'école. Madame Asifi était institutrice à Kaboul quand elle a dû fuir avec sa famille en 1992. Ils se sont installés dans la communauté des réfugiés de Kotchandana, où elle a commencé à enseigner à une poignée d'élèves. Son école sous une tente a depuis mené à l'ouverture de plusieurs écoles permanentes dans le village. L'expansion a été possible grâce au soutien du HCR, de l'administration locale et de certaines ONG. La cérémonie de remise des prix 2015 aura lieu le 5 octobre à Genève. Grâce à ce prix, Akila Asifi, qui est mère de 6 enfants, dont 4 filles, espère que de plus en plus de filles seront encouragées à recevoir une éducation au Pakistan et en Afghanistan, son pays natal.
Et maintenant, un résumé de l'actualité économique, c'est la Minute Éco avec Lionel Gaïma.
En Côte d'Ivoire, les salaires des travailleurs du secteur privé seront bientôt revalorisés à la suite d'une concertation entre le patronat et les syndicats de travailleurs à travers la commission indépendante permanente de concertation dirigée par Bernard Demy, membre de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Dans la plupart des pays, il y a toujours des conflits entre employeurs et salariés. Nous avons opté pour une autre forme de collaboration avec les salariés, a déclaré Ndoumi au cours d'une rencontre avec la presse. Le Sénégal est un bon exemple pour ses voisins de l'Afrique de l'Ouest, avec une tradition démocratique forte, un rôle de premier plan dans la région, une stratégie de développement économique articulée et une voie vers la couverture santé universelle. C'est ce que a affirmé mardi à Dakar l'ambassadeur des États-Unis, M. James Zumwalt. Il s'exprimait lors de la signature d'un accord de financement de 233 milliards de francs CFA, environ 468 millions de dollars, entre l'USAID et le gouvernement sénégalais. Les cours de pétrole ont légèrement rebondi. Dit mardi à New York, le cours du baril de référence pour livraison en octobre a gagné 59 cents à 44,59 dollars sur le New York Mercantile Exchange. Par ailleurs, la Banque centrale américaine, la Fed, doit annoncer jeudi s'il relève le taux d'intérêt pour la première fois depuis près de 10 ans, ce qui aurait pour conséquence de revaloriser le dollar. Or, tout regain de vigueur du dollar tend à peser sur le cours du pétrole, dont les échanges sont libellés en billets verts, car il pénalise les acheteurs munis d'autres devises. Rappelle l'AFP.
Merci Lionel. Nous passons à la page sportive avec Nicolas Pinou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques.
Première journée hier de la phase de poule de la Ligue des Champions.
Le Paris Saint-Germain et l'Argentin Angel Di Maria, buteur, se sont imposés 2-0 au Parc des Princes devant le club suédois de Malmö. Carton du Real de Madrid qui domine le Shakhtar Donetsk 4-0 avec un triplé du portugais Cristiano Ronaldo. Dans le groupe B, Wolfsburg bat à domicile le CSKA Moscou 1-0. Manchester United, pour son retour dans la Ligue des Champions, s'est incliné lors de sa sortie aux Pays-Bas face au PSV Eindhoven 2-1. Dans le groupe C, un stade parmi les plus bruyants d'Europe, un public bouillant et deux équipes au jeu rugueux et combatif. La rencontre entre Galatasaray et l'Atlético a tenu ses promesses avec, à l'arrivée, la victoire 2-0 des Espagnols. Le Benfica de Lisbonne a battu 2-0 le petit poussé de cette édition de la Ligue des Champions, le club kazakh d'Astana, 2-0. Dans le groupe D, Manchester City a été battu à domicile 2-1 par la Juventus de Turin. On rappelle que la Ligue des Champions n'a jamais vraiment trop réussi à Manchester City. Enfin, belle victoire de Séville, 3-0 contre les Allemands de Mönchengladbach.
Et les matchs à ne pas rater ce mercredi?
Le choc entre l'AS Rome et le FC Barcelone tenant du titre est l'affiche des matchs de cette première journée de la Ligue des Champions, où Chelsea, en pleine crise, a l'occasion de se rassurer en recevant le Maccabi Tel Aviv. À suivre également Leverkusen contre le Bate Borisov, Arsenal en déplacement en Croatie chez le Dynamo Zagreb, le Bayern de Munich qui voyage en Grèce chez l'Olympiakos, le déplacement du Dynamo de Kiev face au FC Porto et la Gantoise qui accueille le club de Lyon. Dernier match, le FC Valence contre le Zénith Saint-Pétersbourg.
Enfin, Toronto dit non aux Jeux Olympiques de 2024.
La ville canadienne n'est pas candidate à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. C'est ce qu'a annoncé le maire de la ville canadienne, John Tory, en donnant rendez-vous pour une prochaine édition.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà donc pour le journal. Vous êtes bien branchés sur la VOA émettant de Washington. Jacques Aristide, de retour avec vous. Il est l'heure maintenant d'aborder la tranche magazine du Monde aujourd'hui. Retour en République démocratique du Congo. Au moins 3 personnes ont été blessées hier dans des heurts qui ont éclaté pendant une manifestation de l'opposition contre l'intention prêtée au président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir. Des hommes armés de planches de bois ont attaqué le millier d'opposants peu après le début de leur rassemblement dans un stade de Kinshasa, d'après l'agence Reuters. Des échauffourées se sont produites avant que la police n'intervienne pour séparer les deux camps. Eddy Sango a joint l'un des opposants présents à la manifestation, le député Jean-Claude Mwemba.
Il y avait au moins plus de 300 policiers qui sont arrivés. Il y a eu des échauffourées, je crois, avec certaines personnes qui n'avaient pas eu le temps de partir de ce site-là où les inciviques du pouvoir sont venus pour faire des ordres au meeting de l'opposition. Justement, après la prise de parole de plusieurs présidents des partis politiques, subitement, il y a eu un mouvement de foule. Comme nous, on était sur l'estrade à la tribune, donc on voyait à peu près de loin, vers l'extrême gauche, il y a eu un mouvement de foule. Il y avait 5 personnes qui s'emmenaient vers la foule mais qui avaient des blousons. Ça s'est arrêté pendant, je crois, 1 ou 2 minutes et puis après, c'était rare parce que là, il y a eu des coups de feu. Alors nous tous, nous avons quitté la tribune pour aller chercher un coin vers la rue. D'après ce que je suis en train d'attendre, il n'y a aucun leader politique de l'opposition congolaise qui a été touché.
Combien y a-t-il eu de blessés? Y a-t-il de morts?
2 inciviques qui étaient vraiment sévèrement blessés. Mais au niveau des militants des partis politiques de l'opposition, jusqu'à l'instant où je vous parle, je n'ai pas entendu un autre son contraire.
Quel était l'objectif de votre manifestation?
Le premier point, c'était pour dire N-O-N, non à ce que M. Kabila puisse appuyer la Constitution, et que le 27 novembre 2016, il doit y avoir les élections présidentielles. Nous avons l'article 64 qui nous octroie le droit et le devoir d'empêcher un clan, une famille, qu'est-ce que j'en sais, un groupe de vouloir réquisitionner le pouvoir de force. C'est pour cela que nous avons brandi la Constitution, rien que la Constitution, parce que vous voyez ce qui s'est en train de se passer. De deux, le message était purement politique par rapport à la CENI. Que la CENI commence à partir du 1er octobre les enrôlements des Congolaises et des Congolais, dès lors que le fichier central du serveur central de la CENI est infecté. Et de trois, c'était un message par rapport à la xénophobie. Nous nous rendons compte que le pouvoir commence à utiliser les Congolaises et les Congolais pour tenir des propos xénophobes, des propos racistes que nous n'avons plus connus depuis Babel Ouest.
Avez-vous l'impression que les personnes qui ont attaqué le meeting ou la manifestation étaient envoyées ou c'était simplement des gens qui étaient opposés à vos idées?
Ah ben oui, parce qu'il y a un groupe de gens bien identifiés qui sèment la pagaille quand il s'agit des manifestations de l'opposition.
Jean-Claude Mwemba, leader du mouvement du peuple congolais pour la République, était en ligne de Kinshasa. Et pour être complet sur ce dossier, le porte-parole du gouvernement congolais a indiqué à Reuters que les assaillants étaient probablement des partisans du président Kabila qui auraient été choqués par la rhétorique injurieuse des dirigeants de l'opposition. Lambert Mende a condamné à la fois les attaques et les insultes.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Gros plan sur le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré, procès suivi avec attention dans son pays. C'est le cas Moundou, dans le sud du Tchad, une région où les forces du régime Habré ont semé la terreur au début des années 1980. Timothée de Longmaille a joint à Moundou Nelembaï Nadji, directeur exécutif du Centre de recherche pour la dignité humaine et l'environnement au Tchad.
C'est avec beaucoup d'attention et beaucoup de passion que la population de la ville de Mundu suit ce qui se passe à Dakar par rapport au procès Hissène Habré. Et c'est là, à travers les médias ou bien la presse internationale. Aussi, du côté du gouvernement, je crois que l'ONRTV, à travers son envoyé spécial, envoie quand même quelques éléments d'information par rapport au déroulement du procès et les radios privées. Ici à Mundu, je pense que la radio Karouba a également un envoyé spécial depuis Dakar qui nous fait revivre un peu le procès Hissène Habré actuellement au niveau de Dakar.
Qu'est-ce qui se dit dans les quartiers au sujet de ce procès?
Je crois que dans les rues de Mundu, beaucoup de gens attendent de ce procès-là quelque chose parce que la ville de Mundu, surtout la région du Logone occidental, a été durement frappée lors de Septembre noir. Je fais allusion au malheureux événement de Beni, au temps d'Hissène Habré, où pendant les enquêtes, je crois qu'il y a eu une mission qui était venue à Beni, c'est-à-dire à 25 km de la ville de Mundu, pour pouvoir déterrer les restes de cadavres pour les enquêtes. Donc, le procès Habré attire beaucoup l'attention de la population mundoulaise et celle d'environ la ville de Mundu. Notre crainte, c'est que les gens pensent qu'avec ce refus de parler-là, est-ce qu'on aboutira à un procès qui fera jaillir la lumière sur les cas de disparus ou bien les cas de personnes tuées au temps du Hissène Habré. Donc, c'est également une crainte que les gens expriment à travers la ville de Mundu, le refus de parler de l'ex-président Hissène Habré.
Vous avez évoqué tantôt les violences dans la région de Mundu, notamment le massacre de Deli. Quelle mémoire ont les habitants de ces tragiques événements?
Je crois que c'est assez difficile de supporter, c'est assez difficile de revivre ou bien de parler de ces malheureux événements qui se sont produits à Deli. Pendant ces événements, je crois que beaucoup, beaucoup de Tchadiens, surtout de Logone, ont perdu des proches, des parents, des pères, des cousins. Et donc, je crois que c'est un événement assez douloureux pour la population de ces localités.
Nelembaï Nadji, directeur exécutif du Centre de recherche pour la dignité humaine et l'environnement au Tchad, joint à Mundu.
Tatiana Mosso avec vous depuis la capitale américaine dans Washington Forum ce jeudi 17 septembre. Un focus sur les violations des droits de l'homme qui seraient commises par l'armée camerounaise dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Amnesty International dénonce les abus des soldats camerounais. Comment combattre un ennemi quasi invisible et qui s'infiltre au sein des populations de réfugiés? Partagez vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h TU avec nos invités.
Au Burkina Faso, l'UPC, l'Union pour le Progrès et le Changement, le parti du candidat à la présidence, Zéphirin Diabré, met en cause le silence de la police et des autorités de la transition sur l'affaire des fraudes de cartes d'électeurs. La semaine dernière, la police avait affirmé avoir saisi 5000 fausses cartes d'électeurs. Ali Saïd, directeur adjoint de campagne de l'UPC, appelle les autorités de la transition à prendre au sérieux cette affaire de fausses cartes pour éviter que les résultats des élections du 11 octobre prochain ne soient entachés de fraude. Ali Saïd.
Depuis que cette information ou cette fraude a éclaté, l'affaire a éclaboussé, on n'a pas eu de feedback, on n'a pas eu de retour d'information, n'est-ce pas, de la police judiciaire qui, normalement, est censée restituer l'information. Face à cette situation, nous avions tenu à remonter l'information à la CENI, qui est l'organe central pour ces élections. Nous ne savions pas qu'est-ce qu'elle a entrepris comme démarche. Mais ce qui est clair, notre deuxième inquiétude, justement, vient de là, parce qu'elle a tenu, ou du moins le président de la CENI est sorti, sur la télévision nationale, là où il disait que son fichier est inviolable.
Cela devrait vous rassurer, non?
Ben non, ça ne peut pas nous rassurer parce que nous savions que même le fichier central de la NASA, la CIA ou du KGB peut être violé. Nous savions également qu'un grand avion de ligne peut être détourné. Et nous nous trouvons hasardeux de croire qu'un dispositif puisse être inviolable.
Et comment vous expliquez le silence de la police et des autorités?
C'est ça justement qui nous fait peur. Donc l'objectif de notre conférence de presse était pour qu'on puisse circonscrire, à défaut de mettre la main sur les fraudeurs et les commanditaires, qu'on arrive quand même à circonscrire la fraude, qu'on arrive quand même à nous dire de façon basique comment cette fraude devrait se faire.
Mais de là à déduire que le fichier est inviolable, c'est inquiétant.
Et pourtant, beaucoup de bien a été dit hein, au sujet de ce fichier électoral qui est quand même le meilleur que le Burkina a pu avoir depuis belle lurette.
Tout à fait. Nous ne contestons pas le fichier électoral. Mais de là à déduire que ce fichier est inviolable, c'est ça en fait qui nous inquiète.
En clair, le Burkina a là une occasion d'organiser des élections sans faille et il ne faudrait pas rater cette occasion.
Tout à fait, parce que là, ça nous expose encore à un second problème qui peut dégénérer. Parce qu'il ne faut pas qu'au soir du 11 octobre qu'on nous vole une quelconque victoire. Parce que nous avions, qu'on le veuille ou pas, l'adversité à tel point que nous avions, n'est-ce pas, certains hommes politiques qui pensent qu'ils sont nés que pour gérer le Burkina Faso. Et face à une telle situation, ça devient inquiétant parce que c'est un hold-up électoral qui est en train de se préparer. Et nous demandons aux autorités, aux plus hautes autorités, de prendre le problème à bras le corps plutôt que de nous servir le fait que le fichier est inviolable.
Ali Sey, directeur adjoint de campagne du parti UPC, joint à Ouagadougou par Bagassi Koura.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Coup de projecteur maintenant sur la politique américaine. Ce soir, les candidats à l'investiture du Parti républicain en vue de la présidentielle de 2016 croiseront le fer lors d'un deuxième débat télévisé. Un nouveau sondage révèle que la moitié de l'électorat républicain préfère deux outsiders, le milliardaire Donald Trump et le neurochirurgien Ben Carson. Tous deux continue de prendre des longueurs d'avance sur les 14 autres prétendants, dont Jeb Bush, ancien gouverneur de Floride et frère de l'ex-président George W. Bush. Pourquoi le controversé Trump est toujours en tête? C'est l'une des questions que Chérubin Dorsil a posées au politologue Leonard Wanchekon.
C'est quand même extraordinaire. Je crois que c'est du jamais vu et c'est un rejet total. Si Jeb Bush n'est pas là et qu'il est complètement hors jeu, alors, je ne vois pas qui d'autre peut vraiment défier Trump. Je doute, quoi. Donc, il devient de plus en plus possible qu'il y ait une véritable révolution dans le camp républicain. Oui.
Si vous étiez Donald Trump, quelle serait votre stratégie ce mercredi soir?
Éviter d'insulter. Je vais éviter d'attaquer. Je vais apparaître plus présidentiel en faisant des propositions concrètes sur des points très importants, comme l'économie, comme l'égalité raciale, les questions internationales, et démontrer un peu plus de connaissances et de profondeur dans les idées.
Mais semble-t-il, c'est le contraire qui a marché pour lui jusqu'à présent.
C'est ça. Donc, s'il a déjà gagné, il faut dire que c'est déjà un acquis. Et donc, maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va continuer? Et puis, on ne peut pas continuer simplement en attaquant les gens, en étant vulnérable à l'électorat de base du Parti républicain. Parce que finalement, les gens, à un moment donné, se posent des questions sur l'économie, se posent des questions sur la politique étrangère des États-Unis, etc. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'il va battre les autres sur ce plan. Mais il faut qu'il élève un peu plus son jeu sur ce plan-là pour apparaître un peu présidentiel.
Concernant les autres candidats, on s'attend presque généralement à ce qu'ils s'en prennent à Donald Trump mercredi soir. Serait-ce une bonne stratégie selon vous?
Ils vont simplement essayer de montrer qu'il est ignorant, qu'il n'est pas qualifié pour être président. Et c'est justement sur ce terrain-là qu'il faut qu'il démontre qu'il est plus qualifié que les autres ne croient.
Vous avez parlé, professeur Wanchekon, de tendance anti-dynastie et de rejet du statu quo. Cela se manifeste aussi dans le camp démocrate. On parle beaucoup ces jours-ci de Bernie Sanders.
Exactement, mais je ne pense pas que ce soit la même chose. Il est sympathique, il est inconnu, il est quelqu'un qui est assez à gauche, donc un candidat qui apporte la fraîcheur dans le camp démocrate. Je ne sais pas s'il a la force de frappe de Clinton et les réseaux de Clinton sur le plan national et qui pourrait lui permettre vraiment de damer le pion à Clinton. Et surtout que ce que Clinton a pour elle, c'est le fait qu'elle est une femme. Et donc, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, il y a la chance qu'une femme soit présidente de ce pays. Ce qui joue contre elle, c'est l'anti-establishment. Ce qui joue pour elle, c'est le fait qu'elle est femme.
Nous écoutions le professeur Leonard Wanchekon de Princeton University. Et voilà, cette édition du Monde aujourd'hui prend fin ici. Anne Albertson a dirigé la mise en onde. À la technique, John Ellison. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie, chers amis fidèles de la VOA, pour votre attention. Très bonne journée de mercredi. Rendez-vous demain matin à la même heure et au même endroit. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Take care.